franceinter.fr.
À la une de la science aujourd'hui, de nouvelles découvertes sur les mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens.
On les trouve dans certains pesticides, on les trouve dans certains plastifiants, on a beaucoup parlé ces dernières années du bisphénol A ou des phtalates, on les trouve dans des cosmétiques, on les trouve dans des emballages, des conditionnements alimentaires, on les trouve un peu partout. Aujourd'hui, 100% de la population a des traces détectables de perturbateurs endocriniens.
Voilà, c'était la voix du journaliste Stéphane Foucard en mars dernier sur lemonde.fr. Perturbateurs endocriniens, ils sont partout, mais nous ne savons pas encore complètement comment ils interagissent avec le vivant. Mais une étude française qui sort aujourd'hui nous éclaire sur un effet longtemps présumé de ces polluants, appelé l'effet cocktail. On en a souvent parlé d'ailleurs dans cette émission. Vanessa Delfos et William Bourguet, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes l'un et l'autre chercheur et directeur de recherche au Centre de biologie structurelle de Montpellier et vous publiez donc vos travaux ce matin dans la revue Nature. William Bourguet, avant de nous détailler ce que vous avez trouvé précisément, expliquez-nous d'abord ce qui se cache sous ce nom de l'effet cocktail.
Alors, il faut peut-être déjà rappeler comment fonctionnent les perturbateurs endocriniens. Donc, ce sont des molécules étrangères à l'organisme qui vont interagir avec des protéines très importantes, régulatrices de l'organisme, et donc perturber le fonctionnement normal de ces protéines. Alors ça, on sait que les perturbateurs endocriniens peuvent être potentiellement dangereux pour la santé. Et là, on sait que dans l'effet cocktail, quand ces perturbateurs endocriniens ne sont pas utilisés de manière isolée, mais sont utilisés dans des mélanges, ces mélanges peuvent potentialiser la dangerosité de ces molécules et on a des effets bien plus dévastateurs que lorsque les molécules sont prises isolément.
Et Vanessa Delfos, donc quels ingrédients avez-vous mis dans votre cocktail ?
Alors nous avons le cocktail que nous avons identifié comporte un œstrogène de synthèse que l'on retrouve dans les pilules contraceptives qui sont utilisées massivement et un pesticide, donc le transmonachlore ou chlordane, qui est un pesticide qui n'est plus utilisé aujourd'hui mais qui est stocké dans le sol, qui est bioaccumulé dans la chaîne alimentaire et auquel nous sommes exposés quotidiennement.
Et quels sont les effets donc de ces deux composés combinés ?
Alors combinés, ils vont activer de façon plus importante un des récepteurs dont parlait William Bourguet, le récepteur PXR. Et ce récepteur va avoir une activité plus importante dans la cellule. Et notamment, celui-ci est impliqué dans la détoxification des cellules, donc il pourrait activer de façon non contrôlée la détoxification de médicaments, par exemple.
Donc William Bourguet, vous avez sélectionné plusieurs polluants, c'est ça, pour arriver à cette découverte ?
C'est ça, on a sélectionné environ 40 molécules, on les a sélectionnées sur la base de structures chimiques différentes et puis d'utilisations différentes, c'est-à-dire des pesticides, des médicaments ou des produits chimiques utilisés pour la fabrication des plastiques par exemple, pour avoir un panel assez large, bien que assez restreint, puisqu'on a pour l'instant testé que 40 molécules.
Et ça, ce sont des molécules qu'on retrouve dans notre vie quotidienne toujours ?
Exactement, oui, on est tous exposés à ce genre de molécules, tout à fait.
Mais 40 polluants testés par paire, ça fait quand même beaucoup de possibilités de cocktails ?
Ça fait 780 possibilités de cocktail, oui.
Et vous avez trouvé qu'une seule interaction sur 780 possibilités ?
Exactement. On a trouvé simplement une paire de composés qui avait un effet plus qu'additif, les autres étant plutôt additifs. Celui-là était vraiment plus qu'additif. On dit qu'il a un effet synergique, oui.
C'est la première fois, William Bourguet, qu'on arrive à démontrer justement cet effet cocktail réellement ou pas ?
Alors, démontrer le mécanisme, oui, l'observation, ça fait longtemps qu'on l'a fait, hein, vous l'avez signalé dans votre introduction, pour expliquer véritablement, montrer un mécanisme jusqu'au niveau de l'atome, oui, effectivement, c'est la première fois qu'on fait ça, oui.
Donc là, vous avez fait les tests in vitro, et est-ce qu'on peut imaginer les effets in vivo chez un adulte, par exemple, de ce cocktail en particulier ?
Oui. On peut les imaginer dans la mesure où on sait très bien, in vivo, des tests ont déjà été faits sur le récepteur en question, PXR. Donc on sait, quand ce récepteur est activé, on sait quelles sont ses conséquences au niveau de l'in vivo, avec d'autres molécules, avec des ligands ou des composés qui sont connus pour activer ce récepteur. Donc a priori, nos deux molécules ensemble, nous ne les avons pas testées in vivo encore, c'est le sujet de la continuation de cette étude, mais comme ils activent tous les deux fortement le récepteur PXR, on peut prédire déjà les effets in vivo attendus.
Alors Axel, il y a des réactions sur Twitter, sur le hashtag l'attaque pour nos invités.
Larry qui nous dit, l'effet cocktail est-il un changement de paradigme ? La seule dose ne fait plus le poison maintenant ?
Vanessa Delfos.
Oui, effectivement, la dose ne fait plus le poison. C'est vraiment le cocktail qui va faire le poison dans ces conditions-là. Il faut prendre en compte vraiment les effets de mélange. On ne peut plus seulement dire telle molécule va être dangereuse à telle dose. Il faudra considérer ses partenaires potentiels. Et du coup, ça va abaisser les seuils de toxicité.
Oui, avec des associations, j'imagine, entre certaines molécules qui sont particulièrement délétères. Est-ce que ce sera possible, selon vous, à l'avenir, de faire une sorte de classification dans l'association de ces molécules chimiques ou pas ?
Alors, c'est ce qu'on aimerait faire, notamment via le développement d'un outil de criblage virtuel. On va essayer de voir quel type de molécule pourra s'associer avec quel autre type de molécule, hein, par famille. Mm-hmm. Par exemple, ici, voilà, on a un œstrogène de synthèse, un pesticide, un organochloré. Voilà, faut vraiment chercher les combinaisons qui s'emboîtent les mieux, en fait.
C'est une histoire de trois dimensions.
Ouais. C'est voir quelles sont les molécules qui vont pouvoir s'associer le mieux pour créer ce qu'on appelle un ligand supramoléculaire et activer donc ces récepteurs.
Ouais, William Bourguet, c'est un travail de dingue, ça, quand même, parce que des molécules chimiques, il y en a des milliers, des
150
milliers.
150 000 polluants.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, pour avoir toutes les combinaisons possibles, il vous faut un sacré algorithme, en tout cas, pour vous aider, non?
Oui, enfin, oui, comme disait Vanessa, effectivement, on va quand même beaucoup se céder de la modélisation pour essayer d'avancer un peu sur ce nombre impressionnant de molécules.
Oui.
Après, maintenant, nous, on a fait une découverte, disons, qui est un principe. Hein. On a montré un principe de base. Maintenant, on espère que d'autres laboratoires vont aussi s'emparer de ce problème et qu'on va pas être les seuls à travailler sur ces effets cocktails et que d'autres vont à nos côtés tester d'autres combinaisons sur d'autres récepteurs. Parce que il y a beaucoup de composés, mais il y a aussi beaucoup de récepteurs à tester en plus.
Vous pensez que ce problème va être pris au sérieux parce qu'aujourd'hui, il ne jouit pas quand même d'une parfaite adhésion?
Vous parlez de l'effet
cocktail. De l'effet cocktail en lui-même, oui.
L'effet cocktail, c'est-à-dire que tant qu'on ne connaissait pas un mécanisme, c'était un peu compliqué, notamment de tester les composés. Et puis, il y a énormément de composés, donc les combinaisons sont aussi difficiles à faire. Donc, maintenant qu'on a proposé ce mécanisme, qui n'est certainement pas le seul mécanisme qui est à la base de l'effet cocktail, mais enfin, c'est un mécanisme qu'on peut, nous, concrètement tester expérimentalement. Et je pense que, du coup, on arrivera quand même à convaincre les gens que ce phénomène existe bel et bien.
En tout cas, bravo, félicitations, parce que c'est une avancée importante dans ce domaine des perturbateurs endocriniens, à l'appui donc de cette publication qui vient de paraître ce matin même dans la revue Nature.
Communication.
Merci beaucoup William Bourguet et Vanessa Delfos, vous étiez en ligne depuis Montpellier. Merci pour vos explications. Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un antidiabétique pour soigner la leucémie, c'est l'info santé aujourd'hui. Des chercheurs français ont peut-être trouvé justement le cocktail miracle dans une étude publiée hier dans la revue scientifique Nature, là aussi. Il montre qu'en combinant un médicament habituel contre la leucémie avec un autre traditionnellement utilisé pour le diabète de type 2, le puoglitazone, on obtient après un an une rémission totale sur la plupart des patients. Un véritable espoir dans le traitement de la leucémie myéloïdique chronique qui représente 15% des leucémies. Le monde pourrait nous sembler un peu plus gris lorsque nous sommes déprimés. On parle souvent de broyer du noir. Eh bien, il semblerait que l'association que nous faisons entre l'émotion et la couleur aille bien au-delà de la simple métaphore. Les résultats de deux études publiées dans Psychological Science indique que le sentiment de la tristesse pourrait en réalité changer notre perception des couleurs. Les chercheurs ont constaté que les participants tristes étaient moins précis que les autres dans l'identification des couleurs sur l'axe bleu-jaune. Et puis un cratère de la taille du Texas et de la Californie réunis a été découvert sur la planète Mars. Selon le laboratoire lunaire et planétaire de l'Arizona, ce cratère massif de 40 mètres de profondeur montre un dépôt de glace provenant probablement d'une période de froid passée. Il pourrait nous révéler des détails sur l'histoire climatique de Mars. La photo de ce cratère géant est à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré et sur notre compte Twitter.